Voilà, en tout cas, ce matin, Ben oui, c'est toujours agréable de passer un moment ensemble entre chrétiens, entre frères et sœurs. Et puis, c'est toujours une grâce, c'est une grâce qu'on a quand même de pouvoir parler de la part de Dieu, de parler qui il est et de parler ce qu'il peut faire dans une vie concrètement. Et moi, j'aime bien ces choses-là, j'aime bien les choses concrètes. Qu'est-ce que Dieu peut faire de concret dans ma vie et, ou dans la vie des, en tout cas dans la vie des exemples bibliques qu'on a. Et le titre de ce matin, c'est « Prie le Dieu de l'impossible ». Amen. Prie le Dieu de l'impossible. C'est ça qui est génial avec Dieu, c'est que c'est un Dieu de l'impossible. Il y a beaucoup de témoignages qui se passent à gauche et à droite, mais le Dieu qu'on sert, il est le Dieu de l'impossible. On peut le mettre au défi, c'est lui qui fait quelque chose qui nous dépasse. Et l'exemple que je vais prendre ce matin, c'est l'exemple d'une dame dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est Anne, la maman de Samuel. Anne, elle m'impressionne. Anne, elle a vraiment vécu quelque chose d'impossible. On va lire ensemble le texte. C'est dans 1er livre de Samuel, le chapitre 1, les versets 1 à 21, ou 20. Donc Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Éliou, fils de Tsohu, fils de Tsouf, Éphratite. Ceux qui cherchent un prénom pour leurs enfants qui vont arriver. Il avait deux femmes. Le nom de la première était Anne, et le nom de la seconde était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, prêtres du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme, Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et ses filles de celle-ci. Mais il donnait à Anne une part d'honneur car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. Il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. Sa rivale, ne cessait de la contrarier parce que le Seigneur l'avait rendu stérile. D'année en année, il faisait ainsi. Et chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangea pas. Elkana, son mari, lui dit, « Mais Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Élie le prêtre était assis sur son siège, près du montant de la porte du temple du Seigneur. Elle, amère, se mit à prier l'Éternel et à pleurer abondamment. Amère, elle se mit à prier et pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur, des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme sa prière se prolongeait devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient. Mais on n'entendait pas le son de sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il ne manquait plus que ça. Il lui dit, « Jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton vin !» Anne répondit, « Mais mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée et je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Je me répandais devant le Seigneur, ne me prends pas moi, ta servante, pour une femme sans morale, car c'est l'excès de ma douleur et de ma contrariété qui m'a fait parler jusqu'ici. » Élie répondit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Je suis ta servante, que je trouve grâce à tes yeux. » Puis elle repartit, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Seigneur, ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations avec sa femme, Anne, et le Seigneur se souvient d'elle. Prie le Dieu de l'impossible. Elkana eut des relations avec sa femme, Anne, et le Seigneur se souvint d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte, elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, « C'est au Seigneur que je l'ai demandé. » Amen. Amen. Voilà une histoire. On passe souvent sur ces histoires-là, mais c'est des histoires importantes. C'est nos pères spirituels, nos exemples qui ont vécu des choses incroyables. Et ces choses-là, nous sommes encouragés à aussi les vivre concrètement dans nos vies aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Le Seigneur est au contrôle de nos vies. Et alors, il y a des versets qui sont durs à dire des fois, style Romains 8, 28, hein, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Des fois, tu te dis, mais là, je ne comprends pas à quoi ça sert. toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu peux dire des fois, mais Seigneur, là, le contexte dans lequel je suis, ou ce qui m'arrive là, ou le fait que je perde mon travail, ou le fait d'avoir cette maladie, je ne comprends pas en quoi ça concourt à mon bien, là, tout de suite, maintenant. Hein, c'est, sur le coup, tu te dis, vous, ce verset-là, des fois, ils sont plus durs à digérer. Et pourtant, Dieu est aux commandes de nos vies. Dieu est aux commandes de nos vies. Et ici, la première chose que je veux dire, donc je rappelle le titre, « Prie le Dieu de l'impossible ». Et cette dame, ça, Anne, il y a le contexte. Le contexte est important. Le contexte va nous montrer la profondeur de la souffrance de cette femme. S'il y a une femme qui souffre dans la Bible, c'est Anne, pour plusieurs raisons. C'est le contexte. Hein. Premièrement, en hébreu, donc le problème de la stérilité. Dans ces cultures agricoles, la stérilité est mal vue parce qu'un enfant, et surtout un homme, ça fait un peu de la main-d'œuvre, et puis ça fait comme, c'est un peu comme une machine. Hein. C'est un tracteur, donc quand on n'a pas d'enfant, bien, on ne sait pas bénir la famille. Et donc, premièrement, il y a le problème de la stérilité. En hébreu, la stérilité est toujours féminin. C'est toujours la faute de la femme. Comme dans tout le Proche-Orient ancien, hein, c'est culturel. Hein. C'est il n'y a pas longtemps qu'on a découvert que certains hommes sont aussi stériles. Hein. Voilà. C'est récent, hein. C'est vrai, hein, c'est récent, hein, c'est peut-être dans les dernières décennies. Voilà, des fois, la médecine, c'est chouette aussi. Donc, en tout cas, à l'époque, c'était uniquement la faute de la femme. Les croyances, il y avait des croyances à l'époque qui étaient terribles, que Dieu récompense les justes avec une descendance nombreuse. Si on le prend à l'envers, ben Dieu punit ceux, ou Dieu n'est pas avec ceux et celles qui n'ont pas d'enfants. C'est dur, hein. C'est dur pour Anne. La stérilité était vue comme une conséquence du péché. Je n'arrive pas à être enceinte. Bon, ça ne me concerne pas tellement. Je n'arrive pas à être enceinte. Ouais, voilà, j'ai essayé. Ben, j'ai le ventre, mais ça ne sort pas. Je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est les conséquences. La stérilité serait la conséquence du péché. Donc, bam, ça rajoute du poids, en tout cas psychologiquement et spirituellement, ça rajoute du poids à la condition d'Anne. Elle se dit, en fait, je n'arrive pas à avoir un enfant. Et en plus... C'est parce que les gens pensent que c'est parce que j'ai péché ou parce que mes aïeux ont péché et ça retombe sur moi, c'est comme une punition. C'est lourd à porter. Et ça continue, c'est pas fini. Dans la tradition juive, une femme sans enfant était perçue comme morte et inutile. Ah ouais, c'est violent. S'il y a une femme dans la Bible qui sait ce que c'est la souffrance, c'est elle. Et qui sait ce que c'est d'être seule dans la souffrance. Ben souvent, on est seul là-dedans. Hein. Et puis, il y a le droit juif. On continue. Le droit juif, c'est la stérilité était un motif de divorce. C'est-à-dire que si ta femme n'avait pas donné un enfant en ayant les 10 ans, tu pouvais divorcer pour ça, puisque c'est inutile. C'est même dur à dire. C'est même dur à prêcher ces choses-là. Bref, donc ça, c'est le contexte. Le contexte pèse sur elle. C'est terrible. Et on continue, c'est pas tout. Et elle a une rivale. Dans tout ça, en plus, elle a une rivale qui a beaucoup d'enfants. Pénina. Et elle la pousse, parce que l'hébreu, c'est mal traduit ici. Elle l'ennuie pas, elle la pousse à bout. Elle la pousse à bout parce qu'elle est stérile. Elle se moque d'elle. Regarde, moi j'ai des enfants, toi pas. Tu veux, je t'en revends un. C'est terrible. Bon, ça, elle dit pas ça, hein, c'est moi qui invente. Mais en tout cas, elle la pousse à bout. Elle rend son amertume encore plus amère, si vous voulez. Regarde, moi Dieu m'a béni. Regarde, moi je suis pas inutile. Regarde, moi, au moins, je bénis la famille, tout, etc., etc. Donc, elle a une rivale. Avoir une rivale, c'est terrible. Hein. Avoir un rival ou une rivale, c'est terrible. Avoir quelqu'un en face de toi, à côté de toi, qui est jaloux de toi et qui devient ton ou ta rivale, la jalousie, ça tue. Hein. À la croix, ce n'est pas l'adultère qui a tué Jésus, c'est la jalousie de certains responsables. C'est terrible. Donc, bam, encore un peu de poids. Troisième point, son mari. Bon, ça, c'est souvent le cas. Le mari ne comprend pas tout à fait tout. Voilà, ça on n'en peut rien, il faut nous pardonner, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et donc le mari lui dit, mais pourquoi t'es triste? Pourquoi ça ne va pas? Est-ce que je ne vaux pas, moi, plus que 10 ans? Non! Ma femme me dit souvent, écoute, t'es lourd, mais tu fais pas le poids avec les enfants. Voilà. Oui, elle est sympa. Et donc, non, et là aussi, et ça rajoute quelque chose, là où elle pourrait trouver du réconfort, mais son mari non plus n'arrive pas, et c'est normal, n'arrive pas à tout tout percevoir. On continue. Elle va au temple. Cette dame, c'est une femme de prière. Hein. Anne, c'est pas n'importe qui. Elle le dit, hein, elle pria longuement. La prière, c'est comme un muscle. Tu peux pas te mettre lundi à prier 3 heures d'un coup. C'est compliqué. La prière, c'est vraiment quelque chose qui fait que si tu pries une heure par jour, une heure et demie par jour, ça veut dire que ça fait déjà un certain temps que tu fais ça. Et parce que ça, la relation avec Dieu, ça se travaille. C'est pas comme ça que tu... Et ici, elle, on sent que c'est une femme de prière. Et alors que c'est une femme de prière qui est en train de chercher la face de Dieu, qui est en train de faire tout ce qui est biblique pour trouver quelque chose, elle va au temple. Dernier rempart, dernier refuge, elle va au temple, elle prie, elle se répand, elle est amère, elle prie avec tristesse. Et là, il y a le responsable, Élie, qui lui dit, va cuver ton vin. Elle est là, mais vas-y, mais moi encore un coup, je suis en train de prier, je suis en train de chercher la pensée de Dieu, je suis en train de demander à Dieu qu'il fasse quelque chose d'impossible dans ma vie, et tu dis que je suis alcoolique, il manquait plus que celle-là. Boum. Et puis, dernier point, on ne va pas le faire, mais il faudrait relever toutes les fois qu'il est mis amertume, souffrance, tristesse. C'est des mots qui sont lourds et c'est récurrent. Il faudrait s'arrêter là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, son vocabulaire à Anne, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Son vocabulaire est un vocabulaire de grande tristesse, de grande solitude. Elle est à bout. Bref, s'il y en a une qui peut dire, Seigneur, t'es où ? Je viens de me répandre sur toi pendant longtemps, je viens de prier, j'ai même rien entendu. À part Élie qui dit que je suis une ivrogne. Donc là, elle peut sentir. Et en plus, je prie le Dieu Tout-Puissant, je prie le Dieu qui parle, je prie le Dieu qui est vivant, et même lui, j'entends, il ne se passe rien quand elle prie. C'est quelle solitude ! Vraiment, elle peut se dire, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas avec moi. Elle peut même se dire, mais tu sais, ça me rend encore plus triste. Et quelque part, ce que je vais dire là, c'est très dur. Hein. Elle pourrait être un peu déçue de Dieu. C'est dur à dire ça. Hein. Mais si on est honnête, des fois, ça arrive aussi à nous, dans le coin de nos cœurs. Puis on demande pardon, hein, mais l'espace d'une seconde, Seigneur, là, tu m'as un peu déçu. Je te le dis. Pardon, mais je te le dis. Peut-être plus douce. Mais ça peut arriver comme ça. On ne comprend pas tout. Et parce qu'on ne comprend pas tout, on se dit, mais là, Seigneur, c'est un peu décevant ce qui m'arrive. Elle en est là. Et elle se dit, Dieu m'a abandonné. Et pourtant, elle est à quelques centimètres, elle est à quelques versets d'un grand miracle. Alors que tout son contexte lui dit, Dieu n'est pas avec toi, il t'a abandonné, il ne t'aime pas, regarde, il n'écoute même pas tes prières. C'est sur elle que Dieu est en train de poser ses yeux. C'est sur elle que Dieu a un projet merveilleux. Dieu a un Samuel pour elle. Waouh ! Dieu a un Samuel. Samuel, c'est celui qui va mettre les rois sur... Enfin, il va oindre les rois. Enfin, quel ministère, Samuel ! Waouh ! Dites-moi un peu le prénom des enfants de Pénina. C'est à deux doigts. Et souvent, c'est comme ça. Quand on va rentrer dans une bénédiction, juste avant, c'est compliqué. Le diable fait tout pour qu'on arrête. Le diable fait tout pour qu'on dise, tu sais quoi, c'est vrai, je suis ivrogne, je vais aller cuver mon vin à la maison, voilà. Oh, pardon. Non, c'est pas haut, hein. Bon, je suis belge, hein, j'ai mes limites. Et c'est là, Satan nous pousse souvent, juste avant une belle grande bénédiction, à arrêter. Et c'est là, et il faut le dire, il est malin, dans le sens, il est intelligent dans le mal. Il sait pas le futur, mais il sent l'oignon. Il sait, c'est mon pasteur qui me disait ça, mon pasteur, quand j'étais en stage comme toi. Satan, il sait pas le futur, mais il sent l'oignon. Il sent que là, il y a une bénédiction, et il va tout faire pour te faire rater la bénédiction. Vous savez, le péché, c'est quoi ? Péché, étymologiquement, c'est rater la cible. Il fait tout pour que tu pêches, pour que tu rates la cible, pour que tu rates la bénédiction. Donc, mon frère, ma sœur, si ton contexte est en train de te dire que Dieu t'a abandonné, ouvre tes oreilles, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Le Dieu de l'impossible est certainement en train de faire quelque chose pour toi. Amen.
Amen.
Amen. Et c'est ce qui se passe. Pourtant, avec tout ça, pourtant, Dieu était avec Anne plus que n'importe qui d'autre. C'est magnifique. Dieu était avec elle. Et quand on voit la Anne, on se dit, mais pourtant, c'est bizarre hein, qu'elle passe par ça, qu'elle passe par le doute, qu'elle passe par la tristesse, parce que Anne, elle porte du fruit. C'est mon deuxième point, la tristesse, enfin, le contexte. Deuxième point, elle porte du fruit. Cette dame, c'est un exemple de leadership. Mais vous pouvez y aller, hein, dans des difficultés comme ça. Et c'est quoi ces fruits ? Donc, elle porte des fruits sans résultat. C'est frappant. Les fruits, c'est quoi ? Un, elle a une vision, elle a un projet, elle a un rêve avec Dieu. Appelle ça comme tu veux. Elle a un rêve, moi j'aime bien rêver, parce qu'avec Dieu on peut rêver. Elle a un rêve, elle a un projet, elle a une vision avec Dieu. Ce qu'elle veut, c'est un Samuel. Et elle fait tout pour avoir son Samuel. Elle fait tout pour que sa vision arrive à terme. Cette vision, ça la transcende. C'est cette vision qui fait qu'elle va au temple. C'est cette vision qui l'aide à persévérer. C'est cette vision qui fait qu'elle pense, elle croit que Dieu est capable. Elle va tout faire. C'est cette vision qui l'a fait bouger, qui l'a fait aller en avant. Et pourtant, c'est un contexte difficile. Quel exemple ! C'est facile d'avoir une vision quand tout va bien. On a 75 millions sur le compte bancaire. On va faire un nouveau bâtiment. J'ai une vision. Elle me transcende, elle me porte. Non, il faut croire que quand tu n'as pas assez, ça va aller. C'est ça qui est dur. Et c'est porter quand tu n'as pas tout, quand tu n'as pas toutes les informations, tu portes parce que tu crois que tu es dans le plan de Dieu et que Dieu est là et que Dieu va agir en son temps. Amen. Elle a une vision. Deuxièmement, quelle persévérance. La persévérance, c'est quoi? Un exemple. La persévérance, c'est ben voilà. Écoute, moi, je mets 2 dîmes par mois. Voilà, on a trop de sous avec ma femme, en fait. On n'arrive pas à tout dépenser sur un mois. On soutient 14 missionnaires chaque mois. Écoute, nos enfants, adolescents, 16, 18 ans, écoute, ils ne posent jamais de questions compliquées. Ils obéissent au doigt et à l'œil. D'ailleurs, ils sont tellement géniaux que le matin, samedi matin, tous les samedis, évidemment, on a une fille et un garçon, eh bien, la fille descend. Elle nettoie tout le salon, elle prépare le déjeuner et elle amène le déjeuner au lit. Oui. Et bien souvent, elle me masse les pieds. Et pendant qu'elle fait ça, mon gamin, il a la voiture intérieure-extérieure. Je vais à l'église, c'est marrant, je vais à l'église, je passe la porte, le pasteur me consacre un quart d'heure par culte juste à moi. On est 800 à l'église, mais pour moi, il a un quart d'heure. Et chaque fois qu'il me dit un verset, « Tiens, j'ai pensé à ça cette semaine, j'ai un verset pour toi. » Et justement, c'est le verset que j'ai reçu aussi. Et donc, je persévère. Je continue à croire que Dieu est capable dans ma vie. Ça, c'est la jouissance. La persévérance, c'est... Écoute, la fin du mois, pour nous, elle commence le 3. À partir du 3, c'est compliqué. Mes adolescents... Je ne sais même pas où ils trouvent les questions qu'ils me posent. Moi-même, je n'ai jamais pensé à ça. Ils sont sur leur écran 26 heures par jour, je n'arrive pas à les décoller. Mais c'est plus la réalité, ça. Hein, etc., etc. Et des fois, au culte, je passe, ça fait 3 cultes, le pasteur n'a pas eu le temps de me saluer. Oh, c'est compliqué, machin, l'église. Oh, Dieu ne répond plus à mes prières, c'est compliqué. Mais je continue à persévérer. Je continue à croire que Dieu est avec moi. Je continue à croire qu'après la tempête, il y aura du meilleur temps, etc., etc. C'est ça la persévérance. C'est quand rien ne va comme je veux, je continue à croire que Dieu est aux commandes de ma vie. Amen. Et elle a ça. Je vous rappelle tout le poids. Anne, elle avait des poids, vraiment des poids sur elle, des sacs qui sont lourds. Ah, Dieu m'a abandonné. Et elle continue. Elle continue. Quel exemple. Oui, elle porte du fruit. Et pourtant, il n'y a pas de résultat. Ça me frappe. Continue, ce n'est pas tout. Quelle femme de prière. Je reviens à ça. Quelle femme de prière. Il y a une dame qui prêchait une fois, une prédicatrice américaine, donc je vais le dire en anglais, je suis désolé. Et elle a un super exemple sur la prière. Elle dit, prier, c'est... Alors, c'est en anglais, je vais le dire comme ça. C'est push. Pray until something happens. Alors, je ne sais pas le dire en français. C'est prie jusqu'au moment où quelque chose se passe. Amen. Il y a un truc dans la prière. Et des fois, quand la prière traîne, il y a le diable qui dit, regarde ton voisin. Païen. Il ne prie pas, il va plus que toi en vacances. Sa voiture est mieux que la tienne. Son couple va mieux, sa femme, elle cuisine mieux que la tienne. Non, ça, il ne faut pas dire. Non, ça, je ne peux pas dire, pardon. Et lui, il ne prie pas. Ou regarde dans l'église, là, le gars, il est chrétien à mi-temps. Il est plus béni que toi. Toi, tu es sanctifié, tu fais ce qu'il faut, et tu as... C'est quoi ça? Et ça, c'est vraiment une attaque très percutante du diable. Il fait tout pour qu'on arrête de prier, parce qu'il sait que quand tu pries, quelque chose se passe. Amen. Amen. Et donc, évidemment, puisqu'il sait ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va tout faire pour que tu arrêtes. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à pray until something happens. Prie jusqu'au moment où quelque chose se passe. Parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est dans la prière, c'est le genou à terre, c'est dans le jeûne et la prière que quelque chose... Comme Anne. Anne, elle a continué. Waouh, quel leader! Donc, encore du fruit. C'est une femme de prière. Alléluia. Alléluia. Et puis, évidemment, il y a un temps dangereux, c'est entre le temps de l'accomplissement et l'accomplissement, il y a ce temps-là. C'est le temps des bêtises. C'est le temps où tu vas te dire, écoute, Dieu traîne, ça m'ennuie, je vais faire moi-même. Je vais aller voir Agar, si vous voyez ce que je veux dire, de qui je parle. Et c'est le temps où tu demandes la bénédiction, où elle arrive, reste connecté. Reste comme Anne, elle est restée, elle n'a pas été voir à gauche, elle n'a pas été voir à droite, elle n'a pas cherché une solution humaine. Elle a continué à croire, non, Dieu est là. Elle a cette foi. Moi, ça m'impressionne. La foi, cette petite dame, la foi dans les difficultés. Elle est restée, elle a continué à croire. Ce n'est pas juste une foi théorique, c'est une foi. Non, j'ai demandé, je reste connecté, je connais Dieu, je sais qu'il est capable, j'y vais. Amen. Waouh. Etc., etc. Et puis Anne, ça c'est Dieu qui fait exprès, alors qu'elle porte déjà du fruit, en fait c'est ça, il y a des fois, hein, alors qu'on porte déjà du fruit, vous savez, Dieu est un bon jardinier. Et comme il sait tout, il est omniscient, etc., en bon jardinier, il sait exactement où couper l'arbre pour qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Il sait quatre graves. Il sait quatre graves. Et il sait exactement où couper, comment incliner et à quel moment, à quelle saison le faire pour que dans la nouvelle saison qui arrive, tu portes encore plus de fruits, exactement comme Anne. Anne portait déjà du fruit, malgré le fait que son contexte puisse dire avec les yeux humains, ben Dieu n'est pas avec elle. Eh bien, par où elle passe, elle va sortir de sa zone de confort. Le confort n'est jamais bon. Le confort, le succès, hein, on n'apprend rien dans le succès. Demandez aux gens successful, on n'apprend rien. Le succès, c'est dangereux même, parce que ça fait faire des bêtises. Mais c'est dans l'insuccès, c'est dans l'inconfort, c'est dans les déserts, c'est là qu'on apprend à gérer le succès. Amen. Amen. C'est là qu'il se passe, c'est là que Dieu nous prépare. Et Anne ici, Dieu l'a fait sortir de confort. Donc elle doit vraiment sortir, elle doit aller au temple, elle doit prier, elle doit vraiment être perturbée pour entrer dans une zone encore meilleure. Waouh, quelle femme de Dieu, quelle femme de Dieu. Incroyable, incroyable. Et j'arrive doucement à la fin, je ne sais pas quelle heure il est, doucement à la fin, et c'est là que j'arrive ici, et pourtant, un moment, elle fait sa part. Il y a un moment, il faut faire sa part. Et sa part à elle, bon, il y a pire, elle a des relations avec son mari, elle fait ce qu'il faut. Parce qu'à un moment, la foi, ça demande aussi de l'action, à un moment donné. Et là, elle fait ce qu'il faut, et paf, Dieu se souvient d'elle. Et elle est enceinte. La stérile devient enceinte. Prie le Dieu de l'impossible. Amen. Elle devient enceinte, et elle met au monde un Samuel. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenu... Qu'est-ce que le fait de ce... qu'est-ce que cette sortie de zone de confort a créé chez elle? Ou, le dire autrement, alors qu'on pensait au début que Dieu n'était pas avec elle, que Dieu l'a abandonnée, elle était triste, elle était seule, elle se demandait, mais Dieu, t'es où dans ma vie? Eh bien, Dieu était là, et alors que Samuel naît, bam, elle voit l'action de Dieu. Waouh, je suis enceinte! Moi, la stérile, je suis enceinte! Waouh! Et puis, bam, Samuel arrive, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, alors, je vais dire autrement, alors que je vais te montrer qu'elle portait déjà beaucoup de fruits, eh bien maintenant, elle portera encore davantage de fruits, c'est-à-dire qu'elle va connaître Dieu. Elle connaît Dieu théoriquement, maintenant elle va connaître Dieu pratiquement. Elle sait que, waouh, Dieu est capable. Quand elle va prêcher, elle va te dire, moi j'étais stérile, ça n'allait pas. Et puis on a prié Dieu, j'ai fait ça, Dieu a agi, et puis j'ai accouché. Elle va te dire, le Dieu que je sers, c'est vraiment le Dieu de l'impossible. Amen. Parce qu'elle a vécu un truc. Deuxième chose, elle va avoir une connaissance de Dieu énorme. En hébreu, connaître, c'est yada, c'est connaître dans l'intimité. Elle va connaître Dieu dans l'intimité. Là, elle va pouvoir te dire, écoute, par où tu passes, c'est dur, tu es triste, tu te sens abandonné, mais tracasse pas, Dieu est en train de faire quelque chose. Accroche-toi. Ça va être une encourageuse parce qu'elle sait, elle connaît Dieu. Donc, ça l'augmente. Quand elle va prier, quand elle va poser les mains, mais c'est une prière de foi. Seigneur, toi qui m'as rendu, qui m'as déstérilisé, bénis pas. Elle sait que c'est possible. Ça crée quelque chose. Elle va déterminer. Elle va proclamer autrement. Son ministère va grandir. Son influence va grandir. Son discernement va grandir. Bref, son leadership va grandir. Alors qu'elle portait déjà beaucoup de fruits, cette épreuve qui semblait dégoûtante, en fait, c'est Dieu qui est en train de lui accorder encore plus de fruits. Alléluia. Alléluia. Et lui montrer surtout que c'est Dieu de l'impossible. Ce que je veux dire ce soir, c'est que le Dieu de Anne, c'est aussi notre Dieu. Ce matin, pardon. Pleure un petit café, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, et ça, c'est ça qu'il faut retenir ce matin. S'il y a juste une phrase à retenir, c'est le Dieu qui a rendu la situation impossible à Anne possible, c'est aussi le tien. C'est aussi le mien. Nous croyons en ce Dieu de l'impossible. Dieu guérit, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu fait. Moi, je crois ça. Parce que ce qu'on lit, ce n'est pas juste, ou c'est juste et c'est vrai. Amen. Donc, attendons-nous. Eh bien, amen. Hein. Attendons-nous à voir Dieu aussi. Et proclamons aussi un Dieu vivant. Et quand on passe par des problèmes, des difficultés, ou même on se dit, mais Seigneur, là, tu me déçois. Il est en train de te faire porter encore plus de fruits. Au moment où tu vas comprendre ça, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 mois, tu vas dire, ah, j'ai compris maintenant. Alors là, tu vas dans le petit coin, dis, Seigneur, l'autre jour, j'ai dit que tu m'as déçu, mais ce n'est pas vrai finalement, je suis bien content. Dieu ne déçoit pas. Dieu nous prépare. Ce qu'il faut, c'est rester connecté et s'attendre à lui. Bref, en fait, d'une femme qui pensait être abandonnée, en fait, c'est elle que Dieu aime. C'est avec elle que Dieu est. C'est avec elle que Dieu a un projet. Dieu est à ses côtés, Dieu la coach, et Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. Et ce qu'il faut faire, nous, les chrétiens, parce que des fois, on donne un coup de main à l'ennemi. Faut l'avouer, hein. Voilà. Bon, pas les Belges, mais vous, les Suisses, oui. Donc, des fois, on est appelé, hein, quand quelqu'un passe par une souffrance, quand quelqu'un est devant nous, à la place de critiquer trop vite et de dire, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, tout ça. Discernons aussi. Simplement, nos vies, c'est un peu comme les saisons, comme un arbre. Un arbre fruitier, le meilleur arbre fruitier du monde, ne porte pas de fruits en hiver. Ce n'est pas possible. Il ne porte pas de fruits au printemps. Il ne porte pas de fruits en automne. Il porte seulement des fruits, une fois ou deux. Bon, je ne suis pas spécialiste. Une fois ou deux, en saison en tout cas. Il y a des saisons pour des fruits et des saisons pour pas de fruits. Et donc, devant nous, on est appelé, et c'est un gros mot que je vais dire, à discerner. Nous sommes appelés à devenir des chrétiens matures, étant capables de discerner par quel passage mon frère, ma sœur passe. Et à la place de dire, tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu, il est difficile, il est en orgueil. Non, mon frère, ne tracasse pas, j'ai discerné, j'ai prié pour toi. Tu passes par un temps, mais des fruits arrivent. Courage. Amen. Et pas de dire au célibataire qui prie depuis 10 ans pour sa femme, tu sais, il est difficile. Moi, quand j'ai commencé à prier pour ma femme, j'avais... Je suis converti quand même, à 19 ans. Et à 19 ans et quelques mois, après la conversion, j'ai dit à Dieu, je suis prêt, envoie ma femme. Problème, c'est qu'elle avait 10 ans de moins que moi, c'est pas possible. Donc j'ai dû attendre, et c'est quand elle a eu 18 ans que je dis, oh, Dieu, c'est sympa. Ou le plus vite possible, il m'a fait connaître ma femme, à 18 ans. Avant, je ne pouvais pas. Hein? Donc voilà. Et je ne suis pas difficile. C'est que le ministère, il faut trouver la femme qui va avec. Amen. Et puis bon, il y a des choses qui vont arriver. Et peut-être pour équilibrer. Évidemment qu'il y a des accidents possibles dans la vie. L'échec est normal aussi. Ce n'est pas parce qu'on prie Dieu de l'impossible qu'il va répondre à toutes nos prières. Amen. Moi, j'ai deux exemples pour équilibrer un peu l'affaire. Les deux exemples. Le premier, c'est j'ai un couple d'amis. Ils ont un ministère où ils bougent beaucoup. Ils sont tout le temps sur... Les deux sont tout le temps en chemin. Et maintenant, ils ont, pensent passer la cinquantaine et ils n'ont pas pu avoir d'enfants. On a prié pour eux. On a imposé les miens. On a imposé les pieds. On a tout imposé. Pas possible. On a eu la foi, eu des paroles prophétiques, tout ça. Ils n'ont pas... Aujourd'hui, ils disent eux-mêmes, en fait, merci Seigneur, parce que si on avait eu un enfant, on n'aurait pas pu avoir le ministère qu'on a. Dieu est aux commandes. Amen. Amen. Et un autre exemple pour le mariage, parce que le mariage n'est pas la panacée. Il y a des gens appelés au célibat. Bon,
C'est... Là aussi, il y a aussi une dame qui m'a dit une fois, ben voilà, moi j'ai, oh, je ne sais plus quel âge elle a, beaucoup, 50 ans plus TVA et les taxes, ça fait je ne sais pas combien, et elle me dit, voilà, moi je ne me suis jamais mariée, mais c'est normal, je suis partie en mission, et puis dans le temps, c'est pas comme maintenant, il n'y a pas WhatsApp, tout ça, elle est partie en mission, elle partait des 3, 4, 5 ans, puis elle, comment voulez-vous vous marier, avoir des enfants, ce n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, le célibat, ben, il est prescrit, donc évidemment. Donc ce qu'il faut, c'est discerner. Discerner ce que Dieu veut, et puis attends-toi à ton miracle avec Dieu qui est là. Mais le miracle de l'un n'est pas le miracle de l'autre. La situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. C'est à nous à entendre la voix de Dieu et prier pour ça. Amen. Amen. Conclusion. Alors, en une phrase ou deux, alors que Anne avait une situation compliquée, alors que Anne avait une situation qui, au niveau des yeux humains, on aurait pu dire, écoute, Dieu n'est pas avec elle. C'était tout le contraire qui se passait. Dieu était avec elle et il était en train de la préparer à vivre une saison avec encore plus de fruits. Dieu la préparait à vivre son miracle. Et Dieu est tellement bon qu'après, elle a encore eu d'autres enfants. Amen. Et puis vous lirez chez vous le cantique d'Anne, juste après, chapitre 2. Pff, merveilleux, merveilleux cantique. Elle a fait un temps de louange phénoménal parce qu'elle a vécu quelque chose. Et je nous encourage à vivre ça. Et donc peut-être que dans ta vie aussi, tu passes par là. Peut-être que tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je porte du fruit et pourtant je ne vois pas les résultats. J'ai l'impression que je fais bien et voilà, et je ne vois pas de résultats. Et puis les gens, enfin c'est dur. Je passe par un moment difficile comme ça, où il n'y a pas de péché, mais c'est juste dur comme ça. Et j'aimerais t'encourager ce matin, j'aimerais que tout le monde ferme les yeux, on va faire un petit appel. Et j'aimerais que tu reçoives cet encouragement, parce que c'est vraiment ça ce matin, c'est un encouragement. Ne sois pas découragé, mon frère, ma sœur. Dieu voit tes larmes, Dieu voit ta tristesse, et ce n'est pas parce que tu es triste, et ce n'est pas parce que tu n'es pas béni à la manière des hommes et des femmes que Dieu n'est pas avec toi. Dieu prépare aussi pour toi, en son temps, quelque chose de magnifique. Et peut-être que tu passes par un temps où c'est un peu difficile, où c'est décourageant, et c'est normal. Eh bien moi, j'aimerais dire que Dieu t'envoie quelqu'un de Belgique qui a dû prendre l'avion venir juste pour prier pour toi. Ça, c'est parce que Dieu t'aime beaucoup. Alors, si tu es là ce matin et que tu as besoin d'un temps de prière, eh bien, lève-toi où tu es. N'aie pas peur. Et j'aimerais que tu passes par un temps où Dieu te dit, sois béni mon frère, sois béni. Il y a plusieurs qui se lèvent. Et on va prendre ce temps de prière. Alors, je laisse les gens se lever. On va prendre ce temps de prière. Est-ce que je peux vous demander de venir devant? Ça se fait? Vous n'êtes pas trop... Après, on va prier. C'est mieux qu'on est tous ensemble qu'ici devant. Il y en a beaucoup. Donc, les autres, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Et puis, c'est entre toi et Dieu. Avancez, avancez. N'ayez pas peur. On va avancer ici. Puis, demandez à Philippe de me rejoindre pour prier. Alléluia. Alléluia. On va prier avec la foi. On va croire que Dieu, il sait. Amen. Dieu sait. Et il y a quelques paroles qui viennent comme ça. Prenez pour qui il sait. Il y en a ici qui il y avait, je pense, une femme qui était une femme de prière et elle a un petit peu mis la prière de côté parce qu'elle n'a pas vu la réalisation. Et Dieu te dit ce matin, continue. Continue, reprends le flambeau. Je ne t'ai pas oublié, je suis à tes côtés. Reprends, rallume le feu de la prière. Rallume le feu de la prière, alléluia, alléluia. Il y a d'autres personnes devant aussi qui ont des blessures, comme c'est comme s'il y avait, je vois cette image d'une biche sur le bord du chemin qui a été comme renversée par une voiture et elle ne sait plus marcher. Et c'est comme si c'est arrivé, tu es là, tu es blessé sur le côté et Dieu te dit, je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. En fait, je suis en train de te guérir, je suis en train d'essuyer les larmes de tes yeux pour que toi-même, tu deviennes une essuieuse de larmes de gens qui pleurent dans le futur. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont avancés, Seigneur. Je te demande de les bénir, Seigneur. Je te demande que ce Dieu de l'impossible que Anne a vécu, je te demande que mon frère, que ma sœur puisse expérimenter ça, Seigneur. Je te prie pour que tu leur dises ce matin, je suis avec toi, même si ça ne va pas. Et en fait, j'utilise cette situation pour te bénir. Attends-toi à du fruit dans ta vie. Oh Seigneur, attends, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Ne crois pas les mensonges du diable qui disent que je ne suis pas avec toi. Je suis avec toi et j'ai quelque chose pour toi. Juste sois patient, continue à persévérer. Seigneur, je te prie pour la persévérance chez mon frère, la persévérance chez ma sœur. Je te prie pour qu'il puisse y avoir des témoignages dans les mois, dans les années qui viennent, Seigneur, que tu as fait des grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur. Agis puissamment, que nous puissions sortir ici encouragés, Seigneur. que nous ranime vraiment ce don de la foi dans mon frère, dans ma sœur, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour que tu tombes maintenant sur chacune de nous, chacun de nous, Seigneur. Touche bénie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions sortir encouragés. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta pensée, merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Et quelqu'un se dit, mais moi, je voulais une parole prophétique pour moi ce soir. Je voulais une parole prophétique pour moi ce matin. Je voulais vraiment que quelqu'un me dise, voilà, il cite mon prénom et il me dise, voilà, ça ne va pas, je suis avec toi. Dieu est en train de te le dire. Amen. Il faut aussi voir Dieu là où il est. Il faut entendre Dieu là où il est. Tu veux que Dieu te parle comme ça, mais Dieu parle autrement. Il a ses moyens. Accepte. Seigneur Jésus, sois béni, sois loué. Puis je te prie spécialement pour ce bâtiment, Seigneur, que tu puisses faire entrer l'Église dans cette nouvelle dimension, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je t'ai prié parce que tu es Dieu de l'impossible. Je crois à l'impossible. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.